Le rite, c'est ça, c'est inclure dans un groupe et imprimer des normes. Et ensuite, on y va avec ça, quoi, dans la vie. Donc ça sépare l'individu de la naissance sexuelle originelle et ça crée une deuxième naissance sociale, quoi, en gros.
J'étais très complexée et j'avais envie de ressembler à autre chose.
En fait, dans nos sociétés, quand on veut changer son corps, c'est qu'on veut d'abord changer sa vie.
Et je pense qu'en faisant encore d'autres choses, je me sentirais encore mieux. Peut-être un jour, je serais satisfaite, mais il n'est pas prêt d'arriver ce jour, quand même.
Le fait que ça fasse mal accrédite en quelque sorte l'importance du moment. Il faut mériter.
La règle du jeu est simple, c'est le premier qui touche l'arbre. C'est parti dans les starting blocks.
Comment se fait-on reconnaître? D'abord donc en s'instaurant des épreuves personnelles, des défis, une multitude de manières de s'agripper au monde, des formes de corps à corps avec le monde, qui permettent aux jeunes de tester sa légitimité d'exister.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Steve Juncker.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien.
Merci d'être avec nous. On va parler donc de cette future exposition qui va se tenir au Musée de l'Élysée à Lausanne. Ça s'appelle « Se mettre au monde ». Vous êtes allé à la rencontre d'adolescents, vous les avez photographiés. De quelle manière? Eh bien tout cela, on va en parler tout à l'heure. Auparavant, si vous le voulez bien rappeler votre parcours, j'ai un petit peu glosé, je vous ai un petit peu taquiné sur votre goût des extrêmes tout à l'heure en évoquant bien sûr les villes très très froides comme Yakoutsk, les villes les plus polluées, les villes les plus chaudes. Cette attirance que vous aviez pour tout ce qui concerne la mort, l'absence. Il y a eu le V de corps, ce travail que vous avez fait, notamment avec les autorités genevoises, sur ces gens qu'on retrouve décédés quelque part. Vous les avez photographiés, photographiant le corps tel qu'on l'a trouvé, puis ensuite l'absence de ce corps dans l'environnement dans lequel on l'a trouvé. Il y a eu ce travail très fort, très émouvant, qui s'appelait « À jeudi, 15h ». Plusieurs rendez-vous multiples en compagnie de Xavier, séropositif, qui décédera finalement, et qui vous avez également photographié en retour. De tout ça, on avait parlé ensemble dans cette émission. À force de passer d'un monde à l'autre comme celui-ci, est-ce que vous avez le sentiment, Steve Juncker, de faire un grand écart, ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de très logique dans votre esprit que de photographier l'absence, d'aller dans ces villes incroyables, de photographier le Festival de Cannes, d'aller en Albanie en guerre, d'aller en Palestine, et puis là, de photographier des ados en pleine mutation.
Sincèrement, je pense pas qu'il y ait de grand écart. J'ai l'impression de m'intéresser au monde et au vivant. Et pour ce faire, la mort fait partie du vivant. La vie et les rites de passage sont un des témoignages de nos vies et témoignages supra-important, dont on a tendance à faire abstraction, à soustraire de nos vies, un peu comme pour la mort. C'est des choses dont on ne parle pas, parce que ça part du principe que c'est normal et naturel, mais le fait de ne plus en parler, c'est de ne plus les faire exister, et puis d'une certaine manière, c'est aussi d'une manière de ne pas réussir à en vivre bien. Vivre bien, c'est aussi savoir, c'est aussi rencontrer ces différentes thématiques. Donc non, j'ai pas l'impression de faire le grand écart, et encore moins quand je vais au Festival de Cannes où je traite photographiquement un tout petit peu ce qui m'apparaissait, moi, le plus important à montrer, puisque les accès aux stars sont, si ce n'est pas compliqué, voire impossible pour des gens comme moi, c'est-à-dire un photographe qui arrive là pour photographier quelque chose qui serait plus de l'ordre de la caricature que de l'embellissement, ou en tout cas de la proposition visuelle qui viendrait sous-alimenter un film qui est déjà surexposé, exactement. Donc j'ai traité de la même chose, on va dire, de cette vie de gens qui en ont besoin, qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin de se vendre à tout prix, sous peine d'exclusion. Formule que ma femme avait trouvée, c'est une manière de dire qui est assez claire et je trouve très directe par rapport à la thématique que j'avais décidé d'utiliser pour le travail de Cannes. Donc non, j'ai pas l'impression de faire un grand écart. Et puis pour les villes extrêmes, on parle beaucoup de ces villes extrêmes, parce que c'est vrai qu'il y a un côté d'abord très visuel à ce qui colle à l'extrême, comme pour la mort. Enfin, il y a quelque chose qui, parce que c'est pas vu ou peu vu, ou les extrêmes sont des choses qui ne se visitent pas, qui sont souvent discutées, mais qui se visitent pas visuellement. Il y a des choses qui ne se traitent pas, ou en tout cas pas de cette manière-là. Mais on parle beaucoup d'un projet qui n'est quasiment au quart de sa production, puisqu'il s'agissait, à la sortie du travail sur la mort, de sortir un tout petit peu de ces travaux longs et douloureux, parce qu'ils sont pas aussi simples que ça, humainement, physiquement, pour moi-même, et puis en même temps, dans ses rapports aux autres, c'est pas toujours simple que de travailler sur le mode extrême, ce qu'on peut appeler le mode extrême. Donc c'était de m'offrir la possibilité d'aller visiter, de m'extraire de ma société, de ma vie, de mon quotidien, pour aller une fois par année visiter une ville de l'extrême puisque nous sommes tous attirés par les extrêmes, mais l'extrême, ça peut être simplement la ville la plus basse du monde, ça peut être la ville la plus peuplée, qui en l'occurrence est Tokyo, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'extrême autre que le simple fait qu'elle se trouve être la plus peuplée. Donc c'était m'offrir des petites récréations qui me permettaient de mieux rentrer, et d'aller un peu plus loin dans mes thématiques de la vie, qui sont d'abord des questions que je me pose à moi-même avant qu'on me les pose, et d'aller explorer. J'espère que j'ai été clair.
Oui, c'est très clair. Alors racontez-nous la genèse de ce projet, se mettre au monde, présenté au musée de l'Élysée à Lausanne. Là, vous avez choisi de photographier ces adolescents qui vont devenir des adultes.
Alors ouais, au départ, c'est parti comme ça. J'ai un enfant, je suis séparé. Donc j'ai eu un premier mariage, pardon, et je me suis séparé. J'ai eu un enfant de ce premier mariage à 16 ans. Donc une fois tous les 15 jours, il vient à la maison. Et à 16 ans, quand il débarque à la maison, je m'aperçois qu'il a quelque chose d'un homme. Et ça a paru extrêmement rapidement. J'ai pas eu le sentiment d'une évolution. J'ai un enfant qui a grandi, ça je l'ai vu. Mais à un moment donné, ça a été très court. Un enfant est parti de chez moi. 15 jours plus tard, il revient. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit bout d'homme qui arrive gentiment dans sa vie. Et je me suis posé la question de savoir ce que j'avais pu faire pour lui faire et dire ou quels avaient été les symboles ou les rites possibles, inconscients, puisque je n'en avais pas conscience avant, que j'avais pu lui donner pour qu'il commence à imaginer qu'il sortait du vieil enfant pour entrer dans le jeune adulte. Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, bah merde, j'ai raté un truc, j'ai rien fait du tout. Alors je lui pose la question, puis lui il me dit, oui c'est bon papa, c'est bon, t'as fait tout ce que t'avais à faire, tout va bien. Moi je suis convaincu que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, ou en tout cas une partie. Il s'en sort très bien, comme l'énorme majorité des jeunes, malgré ça, parce qu'il se trouve qu'ils cherchent leur rite pour finir, puisqu'ils ne sont plus canalisés par une société qui les organise. Alors, sans dire que ceci est bien ou pas bien, mais l'armée était une manière de se prouver qu'on était d'accord, ou alors qu'on n'était pas d'accord, qui est une vraie manière de pouvoir affronter une obligation et on décide d'y aller ou de pas y aller.
Et une autorité. Ouais.
L'autorité, la religion faisait partie de ça. J'ai décidé à un moment donné de ne pas être baptisé. Et alors, on est baptisé jeune parce que c'est une tradition, parce qu'il fallait monter au ciel le plus rapidement. Et comme on mourait jeune, donc il fallait qu'on le fasse tôt. Donc là, toutes ces choses-là ont tendance à être moins présentes, moins canalisées par la société, disparaît. Et donc, les jeunes se réinventent des rites. Rites qui sont en réinvention de tout temps et qui continueront à évoluer. Simplement, je pense qu'on vit une période un peu de latence et qui, même si les rites sont organisés, ils ne sont plus verbalisés directement. J'ai vécu, je pense, un rite. Quand je dis « je pense », il n'a pas été verbalisé par mon père, donc je ne peux que penser. Mais moi, je le reçois comme ça. Mon père, à 16 ans, me demande si je suis d'accord d'aller faire des sauts en parachute, de passer mes brevets. J'accepte, je fais mes sauts, je passe mes brevets. Suite à cette expérience, je peux dire que j'ai passé réellement ce que pourrait être un rite initiatique, une proposition d'un adulte, l'acceptation d'un enfant, la réussite de cela. Donc j'ai vraiment vécu ça comme un rite qui m'a, moi, apporté beaucoup de choses au long de ma construction, mais qui, je pense, s'il avait été verbalisé comme étant un rite ou un possible passage, m'aurait permis d'aller plus vite encore dans ce... Quand je dis plus vite, ça ne veut pas dire plus vite pour être mieux ou meilleur, mais plus vite pour le vivre mieux. Voilà, je pense que c'est important.
Les adolescents que vous avez photographiés, est-ce que, comme dans votre cas plus jeune, Steve Juncker, ce sont les parents qui leur disent « veux-tu te faire un tatouage ?» ou est-ce que là, on a affaire quand même à une autre catégorie? Ce sont effectivement des jeunes qui décident d'aller se faire tatouer, par exemple, contre parfois l'avis des parents.
Alors, je pense profondément que ce sont des rites à l'heure d'aujourd'hui qui sont plus initiés du tout par des... Quand je dis plus du tout, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je pense que majoritairement, les rites s'organisent, et c'est là où tout d'un coup, le terme ou la définition de rite peut être discutable, c'est qu'ils s'organisent entre eux. Ouais. Très vite, par exemple, il y a des choses aussi qu'il faut bien dire, c'est-à-dire que le rite est quelque chose d'intime. Donc, on n'est pas invité à venir pour sa première relation sexuelle, pour faire des photos de sa première relation sexuelle. Donc, ça veut dire que je travaille dans un espace où il va être compliqué. D'abord, j'ai plus leur âge. Les thématiques sont souvent, en l'occurrence, des thématiques qui peuvent tout à fait s'inventer entre eux, mais qui n'ont pas directement à voir avec ce que je pourrais imaginer. Je ne suis pas appelé pour intervenir. Donc, c'était le travail, c'est de tourner autour de ce que moi, j'ai estimé être des rites, de ces rites souvent non conscients, de rites de passage qui ne sont pas non plus destinés, parce qu'on a tendance à penser que l'adolescence, c'est un âge particulier et que ça se termine à un âge particulier. Là, on peut dire qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que l'adolescence, c'est un passage obligatoire pour vivre bien, mais il peut se passer très tard. Et des gens sont en recherche de rites. Le fait qu'ils ne soient plus verbalisés, ça pousse aussi les jeunes ou les moins jeunes aller chercher un peu ce qui leur apparaîtrait comme quelque chose d'important qui pourrait faire valoir ce titre de rite aux yeux de la société dans laquelle ils fonctionnent. Ça va passer de la suspension, qui sont des suspensions, qui est peut-être le seul rite ethno-tribal des Indiens Okapi, qui est vraiment un rite avéré et connu de longue date, qui sont ces rites par suspension de la peau, par des crochets, et donc qui peut paraître horrible, avec une atteinte au corps. Évidemment, c'est très particulier.
C'est spectaculaire à voir, en tout cas.
C'est très spectaculaire à voir, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je ne vais pas dire que ce soit quelque chose...
Faut décrire ça, donc faut imaginer qu'on vous accroche, imaginez des dizaines d'hameçons, mais des gros. Hein.
Alors là, c'est moins, il y a souvent deux, enfin moi ce que j'ai pu voir, c'était 2 à 4 crochets, et puis après c'est vrai, bon voilà, se suspend, mais ce qui était intéressant, c'est que là, vraiment, on était dans un rite ethno, de poser la question aux personnes qui s'étaient fait suspendre, de leur demander s'ils étaient passés un rite pour eux, si ça se rapprochait de ce que pouvait être un rite, ils me répondent, ils sont très étonnés de la question que je pose. Donc ça prouve à quel point la disparition du rite officiel, le rite canalisé, enfin même ne serait-ce que l'importance du rite, n'est plus tellement dans l'inconscient collectif. Il y a vraiment quelque part quelque chose qui s'invente et puis une recherche qui n'est jamais définie et jamais verbalisée. Et je pense vraiment, j'insiste là-dessus, c'est con parce que je viens de répéter ça 25 fois, mais je pense que c'est super important. Et il n'y a pas obligé de faire des choses dans ces rites de super, on va dire, extraordinaires, comme ce que pourrait être la suspension ou un saut en parachute. Il peut y avoir simplement une mère qui donne quelque chose d'important à sa fille, je ne sais pas, ça peut être la bague de sa grand-mère, ça peut être un père qui donne une montre, ça peut être un mot, une lettre, ça peut être plein de choses. Et je pense que ça, c'est important de le faire ressortir. Et cette exposition, je parle beaucoup comme ça, je dis tout, en une fois.
Vous êtes là pour ça. Hein.
Oui, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle. Enfin, bon.
C'est pour ça que j'ai fait ce job.
Ouais. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai essayé de faire dans cette exposition, c'est plutôt que l'on ne se souvienne que d'une image, c'est de provoquer une dimension qui nous permette de rentrer dans son intérieur à soi-même, de se poser la question, de servir d'agitateur cérébral. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, faire le travail que je fais, si ça ne sert pas à agiter, ça sert à rien. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la décoration, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre de « vous avez vu ce que j'ai fait comme c'est beau ». Et puis après, il y a ce que j'estime moi le plus important, que j'espère réussir, ce qui n'est pas gagné forcément à l'avance, mais c'est de servir d'agitateur. Pas d'agitateur dans un sens vulgaire ou caricatural, dans un sens positif qui est celui de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je pourrais faire?
Une photo comme remue-ménage. Exactement. D'une certaine façon.
Si vous voulez.
Puisque vous parlez de ça, je me suis toujours questionné sur votre travail. Si on parle de miroir ou d'effet miroir, c'est au fond tout ce qui vous poussait à aller traiter tous ces sujets et les résonances que ça avait en vous. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que pour certains travaux que vous avez effectués, vous prenez beaucoup de distance avec les choses et vous tentez de vous approcher, en tout cas de façon un peu sur plan d'esthétique, beaucoup de la peinture. Et là, vous avez choisi de photographier ces adolescents avec du matériel un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser lorsqu'on essaye d'attraper des adolescents au vol. Dans certains cas, vous avez travaillé avec une chambre, donc c'est un matériel assez encombrant, on ne fait pas 10 000 photos à la seconde avec, ça demande quand même une certaine pratique, c'est lourd, c'est encombrant, c'est pas évident à utiliser. Pourquoi ce choix ?
J'avais envie de me mettre aussi dans un espace de fragilité, c'est-à-dire que la technique c'est très bien, je pense que chaque appareil photo est un outil qu'on peut servir et qui s'applique à certains types de sujets. Moi j'avais envie de me retrouver dans une situation fragilisée. La photographie est mon métier, je l'ai appris, je sais utiliser une chambre. Par contre, utiliser une chambre à main levée et travailler dans des conditions de lumière souvent très compliquées, la manière du reportage, d'un reporter, ça devenait vraiment franchement pas simple. Effectivement, c'est quelques images, c'est-à-dire que j'ai un dos, et c'est compliqué peut-être de l'expliquer à la radio, mais c'est un dos qui me permet d'avoir que 6 vues, mais ces vues se changent toutes les 5 à 10 secondes, le temps de tenir son appareil, de l'enlever de l'œil, de charger. Ça veut dire que je ne peux pas enchaîner une séquence de photos, c'est-à-dire qu'il faut que j'attende le bon moment pour faire mon image. C'est ce que j'estime être le plus important dans la photographie, c'est le point de vue et le bon moment. Et quand on attend ce bon moment, quand on le guette, et qu'on se met en position de chance, on s'aperçoit qu'on en a de la chance, déjà pour commencer. Deuxièmement, qu'on loupe des choses. Donc, cette frustration vient charger un nuage qui vient nous faire plus fort. C'est ce que j'estime et c'est ce que j'espère réussir à faire. Et le coût de production est tellement important que ça nous oblige à gérer ça d'une manière tout à fait différente. C'est que je ne fais pas n'importe quoi et je choisirai après. C'est je fais ce que je peux et j'espère que j'aurai ce que j'ai vu. Et le résultat de 4 ans de travail, c'est 35 images. 35 images pour donner une proportion sur à peu près 150 photographies, 150 déclenchements. Donc ça fait, pour finir, un résultat en termes de quantité, si on le met au goût d'aujourd'hui, ça fait très très peu d'images pour faire un travail.
Ça fait 2 jours d'un adolescent avec son smartphone.
C'est bien possible que ça fasse même plutôt qu'un jour, en fonction du sujet qu'il a photographié.
Oui. Comment les avez-vous approchés et de quelle façon vous ont-ils vu, ces ados, Steve Juncker?
Alors, je les ai toujours, pour un certain nombre d'adolescents, je les ai approchés très à distance en choisissant des scènes ou des situations où ils étaient amenés à être entre eux. Je n'ai jamais ou rarement contacté un jeune pour lui demander de me laisser la possibilité de le photographier, à part pour un qui faisait des sauts en parachute, où j'étais quand même tenu, j'étais sur une base de sauts de parachute, et les parents, parce qu'il était très jeune, donc il y a le minimum c'était le minimum de contact qu'il fallait que je fasse. Sinon, pour le reste, c'était de me mettre en situation de regardeur, de voyeur, ce qui est la fonction du photographe, de celui qui regarde, de regarder bien, mais de ne pas interférer, ce qui est un leurre, puisqu'on interfère systématiquement. Mais ce qui, moi, m'a surpris, et ce n'est pas tant ma réaction à moi, c'est ce qu'on m'a dit de ces images. Les gens se sont surpris de me voir aussi près, puisque je suis assez près pour finir des adolescents que je photographie, et de voir que très peu me regardent. Et c'est vrai que mon appareil, la manière, l'attitude... Je deviens très vite un homme pas très dangereux, parce que j'ai un gros appareil qui montre que je suis soit un artiste, soit un branleur. Donc dans les deux cas, pas très dangereux pour les jeunes. Et on voit bien que je déclenche pas trop, donc on se demande vraiment ce que je fais. Et puis pour finir, on me fiche la paix.
Ouais.
Et en me fichant la paix, eh bien, ça me laisse travailler en toute bonne conscience. Eux se libèrent et moi je travaille.
Et à aucun moment, vous n'avez suivi de refus ?
Plein. Et il y a plein de déceptions, de situations que j'aurais aimé faire et qui ne s'est pas avérée être intéressante. Je suis souvent reparti sans rien faire. Mais ce qui, moi, m'a surpris et ce qui venait aussi charger ma recherche, parce que c'est mon métier, donc je fais de la photo, mais en même temps, c'est intéressant, je m'intéresse à ce sujet au-delà de l'image que je produis. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'était de voir qui se protègent les uns les autres. Quand on va photographier un adolescent qui a trop bu et qui est couché par terre, en non-conscience, très rapidement, il y en a un qui vient se pointer puis qui dit « Vous faites quoi, monsieur ? Vous êtes en train de photographier ? Vous lui avez demandé s'il était d'accord ? » À juste titre. Mais ça m'a souvent emmerdé parce qu'il y avait souvent des situations qui étaient franchement très intéressantes. Et je ne parle pas de vomi ou de situations qui... Il n'y a aucune volonté de caricaturer les jeunes dans ces situations-là. Parce que quand on boit, on imagine le jeune qui vomit, qui est mal, etc. J'ai essayé d'être le plus tendre possible pour offrir la possibilité de regarder ces passages comme de beaux passages. Et peu importe quels sont les types de passages, que ce soit de la suspension, on va dire, à l'ivresse.
Vous avez gardé un contact avec eux, ils vont voir l'exposition, ils ont déjà vu les images?
Non, parce qu'une grande partie de ces photographies ont été faites dans la rue. Je n'ai pas directement parlé avec ces jeunes. Ils m'ont vu, donc on part du principe d'un accord tacite, parce que je ne peux pas me cacher pour faire mes images, je suis frontalement présent. Quand on ne veut pas, on fait un signe, je ne fais pas. Et j'aime pas cette idée d'aller créer le contact trop fort pour amener tout d'un coup les gens à venir voir leur exposition, qui devienne leur exposition. Un exemple intéressant, c'était Levé de corps, et ça c'est très bien pour le coup, mais c'est où tout d'un coup le travail qui avait été réalisé avec Thierry Mertonas sur les levées de corps, donc les travailleurs de la mort, ceux qui travaillent autour de la mort, ces gens, en fait, pour finir, tous ces travailleurs ont pris le livre, non pas en otage, mais ils l'ont pris pour eux. C'était devenu leur objet. Et c'est vrai qu'il y a un côté peut-être trop nombriliste de ma part que de dire que si on concerne trop, pour finir, c'est quelque chose qui disparaît trop vite. Moi, j'ai besoin que ça m'appartienne encore un tout petit peu. Donc non, je ne convie pas forcément tout le monde à venir voir les photos. Je suis très heureux d'avoir des avis des gens concernés, mais c'est vrai que je ne cherche pas à les amener à l'exposition.
Vous avez l'habitude de faire un travail très frontal avec vos sujets lorsque on évoque la guerre en Albanie, par exemple, lorsque vous êtes en Palestine, lorsque vous allez à la rencontre de prostituées octogénaires pour certaines qui vous acceptent dans leur studio où elles travaillent. On peut dire que vous allez vraiment au contact de vos sujets. C'est indispensable pour vous. Vous ne pouvez pas être loin avec un tel objectif. Vous êtes forcément là, tout près.
Alors après, chacun travaillera différemment. Moi, je pense que la seule manière de travailler, c'est d'être au contact du sujet. Mais contact, ça veut dire pas à 25 mètres, ça veut dire être tout près. Puis d'un autre côté, il y a toute cette difficulté de se trouver au bon endroit. ce qu'on va appeler le point de vue, un point de vue qui a tendance à disparaître un petit peu parce que la quantité permet de faire plein de choses et on se replacera après dans les images pour choisir celle qui nous apparaîtra être la meilleure. Moi, je fais partie de ceux qui se placent d'abord. La bonne distance induit automatiquement une proximité, à mon sens, une proximité et une acceptation. On est un peu et on fonctionne comme des animaux, qu'on le voit très bien quand on se rapproche trop de certaines personnes. Les champs varient. Il y a des personnes qu'on va déranger à 1m50, il y a des gens qu'on va déranger à 30 cm. Et en fonction de ces perméabilités, je travaille dans ces espaces de tolérance. Et je pense que ça, c'est profondément une des raisons pour lesquelles le travail que je réalise, même s'il est frontal et dur et quelquefois difficile à voir, ne soulève pas d'autres ambiguïtés ou d'autres problèmes. La bonne distance induit une forme de respect, le mien. Et donc, quand on est pris en respect, au final, il n'y a pas de souci.
Steve Juncker est notre invité. Je vous rappelle cette exposition qui va se tenir très bientôt au musée de l'Élysée. Ça s'appelle « Se mettre au monde ». Vous restez avec nous, Steve Juncker. D'ici quelques instants, ce sera l'heure du journal dans Vertigo. L'exposition, elle commence le 25 mai. Elle est à voir jusqu'au 28 août au musée de l'Élysée à Lausanne.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Steve Juncker, parlons de cette exposition donc au musée de l'Élysée à Lausanne, à voir à partir du 25 mai. Vous me disiez tout à l'heure, en off, que pendant très longtemps, vous travailliez vos sujets et ça prenait beaucoup de temps avant que ça soit exposé, avant que ce soit publié. Et là, tout à coup, vous arrivez avec un projet en cours et on vous dit « on va vous aider ». C'est en gros comme ça que ça s'est passé.
Oui, enfin, mais je veux dire, ce que j'essayais de dire là, c'est qu'en fait, je me suis plaint en permanence et je continuerai à me plaindre parce que
c'est un photographe
du système. Je crois qu'on va partir des gens qui ont envie de faire des choses, mais ça va souvent trop lentement. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de travaux qui ont été vus, appréciés, mais qui n'arrivaient pas à sortir. Et puis un livre qui a mis 15 ans à sortir, et puis un autre qui a mis une année à sortir, et puis un projet qui a été appelé à être exposé avant même qu'il soit terminé. Donc, j'en veux dire, ça a été très long. J'en suis très fier maintenant, mais c'est vrai que ça a été logique, un ordre logique. Quand on s'est parlé en off, c'était aussi pour dire qu'il fallait surtout pas que j'oublie de remercier le musée de l'Élysée. Alors, ça fait un peu pompeux, mais toujours est-il qu'à un moment donné, dans ce travail, qui me coûtait de gros sous, parce que c'est quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure, vraiment du matériel cher, qui se trouve pas souvent, et peu importe tout ça, mais enfin toujours est-il qu'ils m'ont fait confiance. Caroline Récher est venue, a trouvé le travail suffisamment intéressant pour être aidée. On l'a proposé à ses collègues et puis le musée de l'Élysée a décidé de m'aider à produire et finaliser ce projet qui sera donc présenté à partir du 25. Donc ouais, j'avais envie de le dire parce que c'est pas aussi anodin que ça et moi ça m'a fait beaucoup de bien.
Est-ce que les méthodes aujourd'hui très utilisées de financement participatif, de crowdfunding en anglais, ça vous intéresse? Est-ce que vous y songez? Le fait qu'on demande à des gens inconnus de soi de financer un projet contre, par exemple, la fourniture d'un livre, d'un tirage, ce genre de choses.
Je trouve ça très bien pour ceux qui ont envie de le faire et qui le font, ça se trouve très bien et pour de bonnes raisons. Moi, j'ai plus de problèmes. J'aime bien, si je dois être aidé, j'aime bien avoir l'interlocuteur, savoir qui et pourquoi. Après, c'est vrai que d'être aidé, que 200 000 personnes me donnent un franc, ça fera 200 000 francs, mais toujours est-il que je trouve que l'investissement n'est souvent pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, comment dire ça. C'est-à-dire que oui, quand je parle à quelqu'un qui va m'aider financièrement, j'ai affaire à quelqu'un que je regarde, j'explique mon projet et qui me dit oui, je vous fais confiance, oui, j'aime ce que vous me proposez, je vous aide à faire ce projet. Donc là, je trouve que c'est quelque chose de direct et de normal. C'est vrai que moi, je suis pas de ceux qui... Mais je trouve ça très bien, au demeurant, mais je suis pas là-dedans.
On a évoqué Cannes avec vous tout à l'heure parce que vous avez fait du reportage à Cannes. Si vous voulez bien, Steve Juncker, on va raviver votre mémoire et partir pour le Festival de Cannes.
Parlons maintenant de cinéma, on s'habitue à tout.
Dans Vertigo.
À Cannes, on nous avait promis un scandale. Finalement, très peu de spectateurs ont quitté la salle. Il y a eu bien sûr quelques huées, des sifflets aussi, des applaudissements.
Vertigo. Cannes.
Et on retrouve Raphaël Wolf en direct du Festival de Cannes. Ce matin, Raphaël, c'était la présentation en compétition officielle du très attendu 20e film de Pedro Almodovar. Il s'appelle Julieta, l'histoire d'une mère qui tente de retrouver la trace de sa fille qui a disparu sans donner de nouvelles depuis plus de 12 ans. C'est un retour au mélodrame pour le réalisateur qui, dites-vous, court toujours après la palme.
Je suis pas le seul à le dire, hein. On le dit depuis à peu près 15, voire plus d'années, même si Almodovar n'est pas toujours, il faut le dire, reparti bredouille de Cannes. Il a obtenu le prix de la mise en scène en 1999 avec Tout sur ma mère et le prix du scénario pour Volver en 2006, mais la palme jamais. Et c'est pas sûr qu'il la décroche avec ce Giulietta qui a été accueilli, on va dire, avec une courtoisie légère, sans plus, des applaudissements à la fin de la projection de presse, certes, mais pas très nourri ni très enthousiaste, à l'image du film, en fait. Un bel objet, mais qui manque de souffle, de corps et de cœur. Un film que j'ai regardé, pour tout vous dire, avec un ennui poli, sans jamais être chaviré, bouleversé ou transporté, même si, bon, il faut quand même aussi le rappeler, Giulietta reste nettement plus intéressant que le précédent Almodovar, le très raté Les Amants Passagers. Et ce matin, les avis étaient eux aussi assez contrastés. J'ai pu pointer mon micro vers les spectateurs avant et après la projection, avant, histoire de savoir ce qu'ils attendaient ou redoutaient de Giulietta. Et parmi ces spectateurs, vous allez entendre un certain Éric Nolot. Oui, Éric Nolot, le chroniqueur français et ex-comparse d'Éric Zemmour dans On n'est pas couché. Et voilà ce qu'il se disait à quelques minutes de la projection du film.
Redouter rien, attendre tout. Voilà, je suis resté un peu sur ma faim sur le dernier, mais je pense que je n'étais pas le seul. Et de savoir qu'a priori, on part dans une veine plutôt mélodramatique et assez profonde et triste, c'est ce que j'ai envie de voir de lui. Voilà.
Moi, j'attends toujours d'être surpris par Almodovar. J'attends toujours de retrouver un univers qui m'est familier depuis longtemps. Alors, des sensations, de l'émotion et puis des propositions nouvelles dans son cinéma. Quoi. On attend qu'il se renouvelle toujours et puis on attend qu'il ait la palme.
Je n'ai pas lu le synopsis, donc, parce que j'aime bien voir les films comme ça. Bon, ce que j'aimerais, c'est que ce soit loufoque et un peu décalé, ce que j'aime bien. Pour le reste, je me fais surprendre.
Éric Nolot, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez ou redoutez du nouveau film de Pedro Almodovar?
Qu'il soit moins mauvais que le précédent, déjà. Hein. Il faut que ça aille dans ce sens-là. À mon avis, c'est pas très dur, parce que là, on avait un peu touché le fond, ce qui est un peu paradoxal pour un film qui se passe dans un avion, mais voilà.
Panama Papers, vous allez y penser en regardant le film?
Plus que la presse, vous avez vu que dans Panama Papers, les gens qui sont impliqués ont droit à des traitements très différents, hein, selon qu'ils soient Almodovar ou pas Almodovar, par exemple. Donc on lui pardonne tout. Il dit oui, j'ai des comptes au Panama, mais je reste de gauche. Donc s'il reste de gauche, donc tout va bien. Moi je trouve que c'est un monde merveilleux, mais voilà.
Il paraît que c'est la faute de son frère.
Oui, c'est toujours si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Hein. C'est une vieille fable, donc il connaît ses classiques, c'est très bien. Moi j'attends que la presse fasse preuve d'un peu plus de justice, quoi, de pas accabler les autres pour mieux pardonner les uns et réciproquement, voilà. Après, un film ne se juge pas sur le comportement personnel d'un auteur. Il faut vraiment faire la part des choses, ça n'a rien à voir. Donc j'espère passer un bon moment de cinéma, tout simplement.
Mon premier Cannes, il y avait un film, lui, Todo sobre mi madre, et je l'ai un peu perdu dans ces années-là. Alors j'aimerais bien qu'il me donne pour mon dernier Cannes quelque chose de grandiose.
No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años.
Si no te vas, vas a saber.
Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo.
Vas a tener lo que muy poca gente. Algo.
Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas, pasará lo de siempre.
Julieta. Mamá.
Yo amo.
Bonjour, un mot sur l'Almodovar?
Je ne parle pas français.
C'est pas bon, ce n'est pas le meilleur Almodovar, c'est rien de spécial. L'histoire, simplement, il a tourné simplement, pas de spécial.
Nul.
C'était Almodovar classique, un extraordinaire.
Ouais, moyen.
Moyen, ouais.
Très mauvais.
Ah, carrément.
Mais là, non réussi.
C'est un film extrêmement bien fait. C'est le Almodovar, je veux dire, qu'on aime, c'est-à-dire celui qui est grand cinéaste classique et tout ça. Il y a peut-être un peu moins de folie qu'il y en a eu à une époque, voilà.
J'ai passé un bon moment. C'est un film pas novateur, mais tout à fait intéressant. Et j'espère qu'il va rencontrer un large public, voilà.
Oh ben moi, c'est superbe, j'ai beaucoup aimé. Et un jeu de couleurs, mais vraiment fantastique.
Et après la projection de Giulietta ce matin, Raphaël, présenté, on le rappelle, en compétition officielle au Festival de Cannes, Pedro Almodovar a donné une conférence de presse dans la foulée.
Oui, et forcément, on attendait la question, la fameuse question au sujet des Panama Papers, cette récente affaire, donc on l'a dit, d'évasion fiscale, où les noms de Pedro Almodovar et surtout de son frère Agustin, producteur de ses films, sont apparus. Et ça n'a pas raté, dans un climat en rien gêné, un journaliste a osé demander au réalisateur espagnol s'il pensait que ce scandale allait déteindre d'une manière ou d'une autre sur la réception publique de Giulietta. Réponse de Pedro Almodovar.
Sabes, lo que pasa es que tu pregunta es muy general.
Votre question est peut-être un peu trop générale. Mon nom, ainsi que le nom de mon frère, sont les noms les moins importants qui apparaissent dans les Panama Papers. Si les Panama Papers étaient un film, on ne serait même pas au générique. On ne serait pas du tout dans le film. Mais la presse espagnole nous a traités comme si nous étions les rôles principaux des Panama Papers, les personnages principaux des Panama Papers. Mais votre question est tellement générale, il y aurait tellement de choses à dire. Panama Papers, il y a beaucoup de noms dans cette liste et on ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas eu assez d'enquête à ce sujet. Donc, ça ne vous a pas empêché de voir le film, film que vous avez apprécié, je suppose. Donc, ce sera le reste pour les autres cinéphiles également.
Et sous les applaudissements d'une partie des journalistes présents, Raphaël, merci.
Ça s'appelle Bété en touche, hein, quand même.
C'est ça, c'est oui, une belle touche tout de même. Je me tourne vers vous, Steve Juncker. Le Festival de Cannes, vous l'avez couvert. Vous avez couvert alors ce que vous pouviez, ce que vous aviez envie de montrer de ce Festival de Cannes. Et vous aviez ce mot, vous appeliez ça Cannes, le royaume de l'esthéticonomie. Et lorsqu'on voit les photos que vous avez réalisées là-bas, effectivement, c'est assez effrayant.
Ce qui est effrayant, mais en même temps, c'est ce qui se reproduit à des niveaux différents, mais qu'on a tous vu quelquefois, c'est ce déploiement d'énergie. Il faut dire que Cannes, c'est un déploiement d'énergie, justement, du paraître, qui a quelque chose d'assez effroyable et fascinant à la fois. C'est un peu une comédie permanente. Les gens se préoccupent vraiment, mais ça, on le sait. En fait, pour moi, c'est des lieux communs. Mais c'est tellement énorme qu'il est difficile de passer à travers. Donc on passe son temps à courir d'une chambre à une autre. On s'aperçoit que des coiffeurs, que des bijoutiers viennent frapper aux portes pour parer, si possible, celle qui aura la palme pour pouvoir être vue et donc photographiée. On voit même des gens monter les escaliers avec des bijoux et les redonner aux gardes du corps tout de suite après les avoir montés, parce que sinon ça veut dire qu'un garde du corps doit les suivre toute la soirée et elles n'ont pas envie. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont anecdotiques, caricaturaux, tout ce qu'on veut, mais qui, dans le cadre tout d'un coup d'une fête du cinéma, prend des proportions gigantesques, où le cinéma disparaît derrière toute une espèce de, on va dire, d'enchevêtrement de bouteilles de parfum, de savon, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou ça n'a plus beaucoup d'intérêt, en tout cas pour celui qui se trouve en périphérie de tout ça.
Mais quel plaisir quand même, malgré tout, de traverser cette faune. Il y a une matière pour le photographe qui est incroyable.
Mais elle est pauvre, cette matière. C'est-à-dire qu'elle est premier degré. C'est un petit peu ce qu'on pourrait décrire. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de montrer ce premier degré en essayant d'aller toucher le deuxième. Alors après, c'est très compliqué de le faire. C'est un exercice compliqué. C'est faire une photo de spectacle, mais en parlant de son propre spectacle, du spectacle qu'on a envie de montrer. Donc ça peut devenir en même temps très enflammant, très facile et très vite très mal perçu parce que premier degré, et puis ça vient peut-être aussi trop servir quelque chose qu'on aurait envie, si ce n'est pas de dénoncer, parce qu'il n'y a pas à dénoncer, ils font entre guillemets de mal à personne, à part quand ils vont placer leur argent dans des endroits qui ne sont pas toujours très acceptables, dans des situations particulières. Donc voilà, mis à part ça, franchement, j'y suis allé, j'ai vu. J'ai vécu des choses assez étonnantes. Je me suis confronté à des choses qui, moi, me révoltent encore.
Comme quoi, par exemple ?
Je trouve que ce déploiement de fric peut devenir indécent. C'est-à-dire qu'on parle de sommes d'argent quand il s'agit de louer un bateau, quand il s'agit de porter des bijoux, c'est du délire. C'est profondément du délire. Et tout le monde a envie d'être vu, que ce soit celui qui ne sert à rien. C'est en général celui-là qu'on voit le mieux, c'est celui qui ne sert à rien. C'est celui qui a réussi à diriger le plus grand nombre de lumières sur lui par plein d'artifices. Mais c'est du délire. Enfin, je veux dire, j'ai entendu parler de sommes d'argent et je parle pas de cinéma. Je parle de choses qui viennent justement se construire autour pour faire résonner des marques et autre chose. Maintenant, j'ai travaillé dans ce milieu-là. On m'a payé pour travailler dans ce milieu-là. Donc, c'est aussi un peu compliqué de ma part de venir critiquer trop fortement. Mais c'est un monde à voir, mais c'est un monde dans lequel il ne faut pas tomber et on aurait tendance à vouloir y aller plus facilement. Ben c'est vrai que c'est facile.
On va vous emmener dans un autre monde, si vous voulez bien, Steve Juncker. C'est le monde du jeu vidéo qui commence à s'allier avec le cinéma.
Vertigo, pop culture.
enfin qui commence, ça fait déjà un petit moment. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de jeux vidéo et de cinéma? Parce que sur les écrans romans, ce mois-ci, sortent non pas un, mais deux films basés sur des jeux vidéo. Il y aura Ratchet & Clank, héros de la PlayStation de Sony, et puis Angry Birds, le jeu mobile de la compagnie finlandaise Rovio. Et Mathieu, vous allez nous rappeler que les liens entre le jeu vidéo et le cinéma, eh bien, ça remonte à plus longtemps que ce que j'ai dit.
Oui, j'ai parlé de ça de manière internationale, en faisant abstraction des marchés un peu particuliers, comme par exemple le Japon, qui a eu quelques courts et longs métrages, notamment animés avant ça. Les jeux vidéo sont déclinés au cinéma de manière internationale dès les années 90. Le premier officiellement admis, c'est... Super Mario Bros. Oui, il est sorti en film exactement avec des acteurs, des vrais acteurs, en 93. Le plombier de Nintendo et son frère Luigi tentent de sauver la princesse, adaptation qui colle somme toute assez bien avec le scénario de base de Super Mario, à savoir éviter des pièges pour tuer le dragon bizarre et sauver la princesse. Le film engrange 20 millions de dollars au box-office, mais une critique moyenne 0,5 étoiles sur 5. Une vie perdue. Peu importe, c'est surtout la première fois qu'un jeu vidéo inspire un film. Faut dire que même en étant très créatif à adapter Tetris au cinéma, c'était un peu compliqué. Super Mario, c'est un peu le point de départ de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma. Les Street Fighter ou Mortal Kombat, des jeux de qu'on dit de baston où deux personnages se tapent dessus, ont aussi fait légende dans le cinéma d'action avec des interprétations assez libres du scénario d'origine, ma foi plutôt pauvre, de personnes qui se tapent dessus. C'est un peu plus que ça quand même. Mais le vrai tournant, dans tous les sens du terme, c'est quand les jeux vidéo ont commencé à avoir un scénario, un vrai. Tetris était donc emboîté des formes, Mario sauvait la princesse et puis il y a eu Tomb Raider. Le personnage principal c'est Lara Croft, une aventurière archéologue qui parcourt le monde pour trouver de vieux artefacts. Oui, oui, mais elle a aussi des parents, des amis, un scénario de jeu qui pour la première fois importe. En 2001 sort le premier film Tomb Raider avec Angelina Jolie dans le rôle titre, 274 millions de dollars au box-office. Je vous propose donc de faire un petit saut dans le temps, nous sommes fin 2015.
Il y a presque... Tu vas être contente d'être montée, Lara. Attrape ma main.
Ce que vous entendez là, c'est pas un film, c'est le début du dernier jeu vidéo Tomb Raider. Aujourd'hui, non seulement le scénario est bien ficelé, mais en prime, Lara Croft est interprétée par une actrice qui joue avec des points partout sur le corps et le visage dans un studio devant un fond vert. On appelle ça le motion capture, la capture du mouvement. Les réalisateurs du jeu, oui, réalisateurs, peuvent ainsi enregistrer le moindre mouvement et la voix de l'actrice qui interprète donc l'héroïne Lara Croft.
Alors question, est-ce que le prochain Lara Croft à l'écran sera interprété par cette actrice qui joue Lara Croft pour le jeu?
Ça paraît logique, mais non. Non, finalement, ce sera l'actrice suédoise Alicia Vikander, que vous avez vue dans le film Danish Girl ou Ex Machina. Avoir une célébrité à l'écran, ça peut quand même aider pour les entrées. Mais certains films poussent le vice un peu plus loin. Actuellement au cinéma, c'est le film d'animation Ratchet & Clank, du nom des héros de la console PlayStation de Sony. Ratchet & Clank, le film actuellement au cinéma, est une adaptation du premier jeu, sorti en 2002. Mais en même temps, sort aussi un nouveau jeu, basé sur le film de 2016, donc celui qui est en salle maintenant. Il s'agit donc du jeu basé sur le film, basé sur le jeu. Et d'ailleurs, le jeu s'en moque avec plaisir.
J'adore ce que vous faites. J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank.
Le quoi?
Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax.
Oh, tu veux sûrement dire l'holo-film? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D.
Non, je parle bien du jeu. Il est inspiré de l'holo-film. Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais envoyer direct en prison.
Ils font un jeu basé sur un holo-film basé sur ma vie? Mais ils ne m'ont même pas consulté.
Les liens entre le jeu et le film sont courants. Pour la peine, là, on est vraiment par contre au cinéma dans un univers qu'on connaît, puisqu'il s'agit des mêmes personnages. Ils sont animés en 3D dans le jeu comme dans le film. Il n'y a pas d'acteur réel, quoi.
Alors, Angry Birds, c'est quand même la surprise. C'est comment est-ce qu'on a pu faire un film de ce jeu?
Alors là, si vous voulez, la marge de manœuvre, vous connaissez le concept, hein, différents types d'oiseaux qu'on jette sur des cochons verts, ouais, grosso modo. Ouais. Donc la marge de manœuvre pour faire un film, elle est proche de Tetris. Le pitch, c'est donc des oiseaux vivent sur une île, un jour débarquent des cochons verts, et là, c'est le drame.
Excusez-moi, la fête bat de l'aile.
Bien le bonjour, je suis un cochon.
C'est quoi un cochon?
Heureusement, ils n'ont pas lésiné sur les droits musicaux, ça c'est sûr. À mis à part Angry Birds, on peut dire que les jeux vidéo se rapprochent de plus en plus des films qui s'inspirent de plus en plus volontiers des jeux vidéo. À la fin de l'année, juste après Star Wars, sortira cette année donc un nouveau blockbuster, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, Assassin's Creed, le film basé sur l'énorme franchise de jeux du même nom. Il y aura à l'affiche Michael Fassbender, également coproducteur du film, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Et si vous prêtez attention, vous verrez un nouveau logo au générique, aux côtés de 20th Century Fox que vous connaissez, celui de Ubisoft, la multinationale française créatrice de Assassin's Creed, entre autres, parce qu'ils ont plusieurs franchises. Ubisoft, qui a créé une division cinéma qui prend en charge une partie du film en plus des studios hollywoodiens. L'idée pour l'entreprise, c'est là de garder le maximum de contrôle sur la franchise. Deux suites de Assassin's Creed sont déjà prévues, c'est pas dit qu'elles viennent, mais elles sont en travail. Et une autre franchise, Splinter Cell, est actuellement en développement dans cette division cinéma, donc on reparlera d'Ubisoft, je vous le promets.
Puisqu'ils font leur entrée dans l'univers du cinéma, merci. Mathieu, vous jouerez aux jeux vidéo, Steve Juncker?
Non, franchement non, j'ai tenté et j'ai arrêté.
Voilà, c'est un échec.
C'était un échec.
C'est trop dur ou...
Non, ça m'ennuie. Enfin, j'ai joué à une époque où il fallait chercher les portes très longtemps et très rapidement, après avoir sauté un peu partout, je me rendais compte que j'avais pas du tout la fibre de celui qui allait lever le bon caillou.
Donc jeter des cochons sur des oiseaux? Non, des...
Oui, ça va, jeter des oiseaux sur des cochons.
Jeter des oiseaux sur des cochons, va. J'imagine que ça doit vous lasser assez vite, en effet.
Ouais.
Steve Juncker, si vous êtes avec nous, c'est pas précisément pour parler de ça, mais entre autres pour évidemment parler de cette exposition, Se mettre au monde. Ça commence au musée de l'Élysée à Lausanne à partir du 25 mai et jusqu'au 28 août. Un travail que vous avez effectué en collaboration avec le musée de l'Élysée, travail consacré à ces rites de passage qui sont la marque de l'adolescence. Vous qui avez ce tatouage sur le bras gauche, c'était votre rite de passage ou il est tardif celui-ci?
Alors, celui-ci est tardif, oui, parce que quand ça commence, il paraît que ça ne s'arrête pas. Je tente, et je fais comme je veux, donc c'est-à-dire que quand j'ai envie d'en faire, j'en fais. Je suis grand, je fais ce que je veux. Mais il est vrai que je me suis fait un petit tatouage, un premier tatouage qui était ridicule, un petit colibri que j'ai caché depuis.
C'est tellement mignon.
Oui, mais il était bien ridicule. Et je l'ai fait effectivement parce que ça me plaisait pour commencer. Et deuxièmement aussi pour dire que c'était mon corps et que j'avais un petit peu envie de faire ce que je voulais, en sachant que mon père n'était pas super fan de ce genre d'attitude. Et voilà, ça a été peut-être ma première petite... C'est un petit peu le concept, voilà. Mais alors ce concept a fonctionné, je l'ai fait et ça, et voilà. Et du coup, je l'ai caché plus grand. Parce qu'il était quand même toujours bien ridicule.
Sous un parachute?
Mieux, sous une tâche.
Ah.
les rites de passage à l'adolescence, c'est notamment tout ce qui rend fou les parents, comme le tatouage, les piercings, ce genre de choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours dirigé contre les parents ou est-ce que c'est une marque plus générale contre la société, ces rites, ces normes, alors qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est tatoué?
Alors, ce que je reçois, c'est que les choses-là, les rites, en l'occurrence, ne sont pas faits pour être contre, je pense pas que ce soit contre, parce qu'il y a un côté négatif à l'idée d'être contre. C'est une manière de s'affirmer et de dire je ne suis pas d'accord d'une certaine manière. Je décide de faire ce que je veux. Je décide de me faire un tatouage, je sais que tu n'es pas d'accord. Je décide de me faire un piercing, je sais que tu n'es pas d'accord. Donc je vais m'arranger pour le cacher, je vais le faire peut-être à un endroit où tu n'iras pas forcément regarder. Donc je pense qu'un rite, quand il est initié, après effectivement, si maintenant tout le monde en a de ces tatouages, c'est peut-être une manière, c'est vrai qu'on se sent moins seul, mais ça soulève un autre aspect, celui de dire qu'on a réellement besoin à un moment donné de faire quelque chose qui marque une différence, même si pour finir cette différence commence à devenir plus si différente que ça.
Oui, enfin encore qu'il y a différents styles de tatouages qui permettent de se distinguer les uns des autres et de savoir à quelle tribu on appartient.
Oui, il y a le dauphin et puis il y a le tribal.
Ouais. Et le colibri.
Le colibri.
Le colibri.
Ça évolue.
C'est quelle tribu le colibri?
Je sais pas. Là. Du mauvais goût en tout cas au départ.
Ah, vous étiez seul à l'époque à le faire en fait.
J'étais tout seul, peu conseillé.
Exactement. Steve Juncker, merci d'être venu nous voir, nous parler de cette exposition, Se mettre au monde. C'est à voir donc à partir du 25 mai et jusqu'au 28 août au musée de l'Élysée à Lausanne. Toutes les informations sur le site Élysée.ch, puis il y a également votre site internet et toutes ces photos, tous ces travaux que l'on a pu évoquer avec vous, que l'on peut voir sur le site de votre agence photographique, également l'agence Vue à laquelle vous appartenez. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.